Bienvenue à ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Bienvenue à tous. Cette grâce de Dieu, il n'y a que Dieu seul qui nous comprenne, qui comprenne nos soucis, nos douleurs, nos faiblesses, et Dieu qui nous connaît si bien, savait que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes. Et du coup, il a prévu lui-même le plan de salut. C'est lui qui nous a sauvés par sa grâce. C'est de cette grâce dont je veux reparler encore ce matin. Car c'est un sujet inépuisable. Alors nous allons lire un passage qui se trouve dans l'épître de Tite. Tite 2, du verset 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Frères et sœurs, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est qu'il y a 2000 ans, la grâce de Dieu a été manifestée dans la personne de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Jean-Baptiste lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous avons tous reçu et grâce sur grâce, c'est-à-dire sans arrêt. Dieu nous fait grâce, Dieu nous refait grâce, Dieu nous donne, nous fait grâce tous les jours. Nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Nous tous, autant que nous sommes ici, nous avons reçu la grâce de Dieu. Enfin, j'espère que tout le monde ici a reçu la grâce de Dieu. En reconnaissant Jésus-Christ comme notre Sauveur. Il est important de le rappeler régulièrement. Dans cette salle, nous sommes tous des pécheurs graciés. Il n'y en a pas un qui est plus haut que les autres, plus saint, plus intelligent. Tous, nous étions sous la condamnation de Dieu. Empêtrés dans nos faiblesses, nos contradictions, notre mauvaise foi parfois, nos péchés tout simplement. Mais Paul nous dit dans Romains, chapitre 5, versets 8 à 11, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ainsi, nous sommes une assemblée de rachetés. Personne ne peut se prévaloir de quoi que ce soit, puisque nous avons tous été sauvés par le même sang. Nous avons obtenu la réconciliation avec Dieu par Jésus-Christ. Certains éprouvent de grandes difficultés à s'exprimer en public. D'autres le font avec aisance et sans aucun frein. Ce qui fait que quelques-uns ont du mal de prier à haute voix, alors que les autres, les seconds, cela ne pose aucun problème pour eux. Mais cela n'est pas important. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est notre cœur que le Seigneur regarde, c'est le Seigneur qui connaît nos cœurs, qui connaît notre foi, qui connaît nos prières, qui les entend même quand elles sont intérieures. Faire de belles prières n'a jamais été un critère à prendre en considération, puisque Jésus lui-même dénonce les pharisiens qui savaient en faire de très belles. Matthieu 23, 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Nous sommes tous sous la grâce imméritée de Dieu. Gardons-nous d'émettre un quelconque jugement par rapport à l'expression des prières. De même, la manière dont nous exprimons notre foi lors des rassemblements de l'Église, lors des cultes, n'est pas non plus un critère à prendre en considération. Dans certaines églises, l'expression est plutôt exaltée, voire bruyante. Dans d'autres, les réunions sont plus calmes, l'expression est retenue et contenue. Est-ce que la première manifeste plus la foi que la seconde? Non, non, frères et sœurs, ce n'est qu'un mode d'expression qui dépend plus des habitudes culturelles ou de nos sensibilités. Paul a dû reprendre d'ailleurs l'église de Corinthe, car il y avait du désordre dans les réunions. L'apôtre donne donc un exemple de ce que peut être un culte. Et cela ne veut pas dire que cela doit toujours être comme cela, mais c'est une possibilité. Dans 1 Corinthiens 14, versets 26 à 33. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qu'ils parlent en langue ? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et s'il y a un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Nous voyons que l'expression de la foi est variée. Que l'esprit peut inspirer l'un ou l'autre, mais que tout doit se faire dans l'ordre, la paix et pour l'édification de tous. Cela nous laisse une grande marge de liberté. La grâce de Dieu a été manifestée et nous sommes ainsi un peuple de rachetés. Nous n'étions pas le peuple de Dieu, mais maintenant nous le sommes, comme le dit Pierre dans sa première épître au chapitre 2. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oui, frères et sœurs, nous avons obtenu miséricorde. Pas par nos mérites, mais par les vertus de celui qui nous a appelés, le Seigneur Jésus. Ce n'est pas tellement la façon dont nous nous exprimons dans l'Église ou l'organisation de nos cultes qui montre que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Mais c'est notre vie de tous les jours, notre manière de vivre. C'est pourquoi l'apôtre nous dit que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Chaque génération doit vivre dans son siècle, dans le siècle qui est le siècle présent pour cette génération. C'est dans cette génération que nous devons manifester la grâce que Dieu nous a faite. N'étant pas juifs, nous n'avons jamais vraiment vécu sous la loi. Certains ont pu vivre sous le joug de certaines religions. Nous vivons dans une société qui, après avoir été christianisée, redevient de plus en plus païenne. Et nous sommes appelés donc à vivre selon ce que la grâce de Dieu nous révèle, c'est-à-dire le péché, la séparation d'avec Dieu, la condamnation, mais aussi la rédemption par l'œuvre accomplie à la croix par le Seigneur. Si un condamné à mort est gracié, qu'il est libéré et retrouve la liberté d'agir, cela n'aurait aucun sens qu'il revive comme avant et commette de nouveau les mêmes méfaits. Ce serait la preuve qu'il n'a rien compris à la grâce qui lui a été faite et que son cœur n'a pas changé. Si nous comprenons ce que représente la grâce de Dieu et que cela a coûté à notre Seigneur et Sauveur, si nous comprenons la gravité du péché et le sort qui nous était réservé, alors la grâce de Dieu va nous enseigner à vivre différemment, sous son regard bienveillant, en restant dans son amour, au bénéfice de sa grâce. Cette pensée était déjà exprimée dans l'Ancien Testament. Vivre sous la grâce de Dieu, sous le regard bienveillant de Dieu, c'est ce que nous disait le prophète Michée, qu'il exprime au chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître au homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Marcher sous la grâce de Dieu humblement, en pratiquant la miséricorde parce que lui a été miséricordieux avec nous. Ézéchiel annonçait aussi l'œuvre du Saint-Esprit en nous, car de nous-mêmes, nous sommes incapables de plaire à Dieu. C'est donc Dieu qui fait son œuvre. Ce n'est pas notre œuvre, c'est Dieu qui fait son œuvre en nous par le Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. De même que l'homme est l'œuvre de Dieu en Adam, en tant que nouvelle création, nous sommes aussi l'ouvrage de Dieu en Jésus-Christ. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 6. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu ne fait pas son œuvre en nous pour rien. Dieu n'a pas donné son Fils sur la croix pour nous pardonner et ensuite nous laisser vivre comme avant. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pour que nous les pratiquions. Comme je le disais précédemment, ce n'est pas la forme des cultes qui est importante, mais plutôt ce que nous faisons de la nouvelle vie que Dieu nous accorde en nous sauvant. Que faisons-nous chaque jour de la semaine de la vie que Dieu nous donne? C'est ça qui est important, qui montre le salut que Dieu a effectué en nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Paul dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce que nous réalisons bien la portée de ces phrases ? Nous sommes très loin, très très loin, du discours de la société actuelle. Quand nous voyons des reportages, quand les femmes revendiquent le droit à l'avortement, le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps, quand des hommes réclament le droit de changer de genre pour devenir des femmes, etc., etc. Vous en connaissez comme moi les revendications actuelles. Et peut-être que dans les assemblées, il y a des personnes qui ont été désorientées, on va dire, par les pensées du monde. L'apôtre Paul nous dit « Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En tant que chrétiens, nous ne faisons pas ce que nous voulons de notre corps. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Et ça, c'est très important de garder cette pensée. Nous ne suivons pas du tout, nous sommes à contre-courant de la pensée du monde. Paul rappelle cette vérité dans toutes les lettres qu'il écrit, comme par exemple dans l'Épître aux Romains, chapitre 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Il n'y a peut-être pas de désordre dans nos réunions et nos cultes, mais il peut y en avoir dans les vies. Du désordre ou des choses désordonnées. Ou des choses qui n'ont pas été faites dans le bon ordre. Le Seigneur est venu pour changer nos vies et pour remettre de l'ordre dans nos maisons, dans nos foyers. Pour cela, il faut le laisser agir en nous, laisser l'Esprit renouveler notre intelligence, justement cette intelligence qui a peut-être été troublés par les enseignements que l'on entend à longueur de journée à la télévision, dans les médias. On est enseigné sans arrêt et notre intelligence peut être troublée. Donc nous avons besoin que l'Esprit renouvelle notre intelligence pour pouvoir agir selon sa volonté. Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il le disait déjà à l'époque, mais maintenant, c'est encore plus, on va dire. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Oui, frères et sœurs, nous sommes graciés, rachetés, mais nous devons veiller sur nos vies, sur nos pratiques, sur nos conceptions, car Jude dit au verset 4 de son épître qu'il y a des hommes qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Il est difficile de s'opposer à la pression du monde, de vivre à contre-courant, de garder une pensée claire sur ce qu'est la volonté de Dieu. être considérés comme des arriérés, entre guillemets, n'est pas plaisant. Mais nous savons en qui nous croyons, frères et sœurs, et nous attendons l'accomplissement de sa promesse, son retour. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu est notre Père. Jean nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Christ nous a lavés. Nous devons veiller à rester propres en attendant son retour. Un peu comme les parents qui ont pris le bain aux petits, qui l'ont habillé pour un mariage et qui lui disent « Fais attention, reste propre, ne te salis pas, ne va pas te souiller avant la cérémonie. » Dieu nous lave, Dieu nous sanctifie et nous demande de veiller à rester propre. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit Paul. Alors si nous sommes environnés de gens qui vivent dans le péché, nous risquons d'être corrompus, donc nous devons veiller à nos compagnies. Nous devons veiller à ce que nous lisons, à ce que nous voyons, à ce que nous entendons. Nous devons faire très attention à ne pas être entraînés dans l'esprit ambiant. C'est en restant dans la lumière de Christ, de sa parole, de son esprit, que nous pourrons y parvenir, hein, pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit. Je terminerai par un passage dans l'épître de Jean, première épître. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même, il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors que le Seigneur nous accompagne pour rester dans cette grâce de Dieu, dans cette sainteté que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Amen.